Et à la une, l'Afghanistan livré aux Afghans.
Reportage dans le journal Le Monde, dont c'est le titre de une, alors que les troupes de l'OTAN auront plié bagage le 31 décembre dans la vallée d'Arghandab, lieu d'intenses combats entre 2010 et 2012. Les militaires afghans semblent bien en place. Sauf que, Juliette, nous dit un capitaine de l'armée, les Américains ont laissé de l'équipement, mais ils commencent à se déglinguer. Nous n'avons ni la formation pour le réparer, ni les pièces de rechange. Le détail en dit long sur la tâche qui attend l'armée afghane, commente Le Monde, à l'heure où prend fin la mission de combat de l'OTAN, une intervention aussi coûteuse en argent et en vie que fragile dans ses résultats. Les noyaux durs d'Al-Qaïda ont certes été tenus à distance, mais le pays n'est pas stabilisé pour autant. La transformation aurait exigé une action civile fructueuse et l'enracinement d'un État afghan fonctionnel. Ce ne fut franchement pas le cas, regrette Le Monde. Les troupes locales tiennent donc, mais à un prix extrêmement élevé, reprend l'envoyé spécial du journal. Leurs pertes ont atteint cette année un record historique avec plus de 4500 tués. Une telle hémorragie est-elle soutenable, s'interroge-t-il. Le Monde revient aussi sur la guerre perdue contre l'opium, puisque les surfaces des champs ont été multipliées par 28 depuis 2001, et sur la nouvelle diplomatie régionale du président Ashraf Ghani, qui s'est tournée vers le Pakistan, vers la Chine et vers l'Arabie Saoudite.
La femme de l'année choisie par M, le magazine du Monde, eh bien cette femme est irakienne, c'est la Jeanne d'Arc d'Al-Alam.
Al-Alam, c'est cette ville dite de la connaissance pour ses écoles et sa modernité en plein cœur de l'Irak, dont Omaya Al-Jbara était une notable sunnite, libre, éduquée. Elle s'était fait chef de guerre et représentait tout ce que les djihadistes cherchent à anéantir, écrit l'hebdomadaire. Après avoir vu son père et deux de ses frères tués dans des attentats, c'est elle qui a mené pendant des semaines la résistance locale contre le groupe État islamique. Jusqu'à sa mort sur une barricade, le 22 juin, Omaya Al-Jbara tenait tête aux terroristes qui croient dur comme fer qu'être tué par une femme leur ferme les portes du paradis. Notre consoeur du Monde a ramené de ses reportages au Kurdistan où elle a rencontré le mari et les enfants d'Omaya Al-Jbara. Le récit de la vie de cette femme, promue martyr et héroïne nationale par le gouvernement, est glorifiée, dit-elle, par des poèmes, des chansons et des discours, aussi bien chez les sunnites, sa communauté, que chez les chiites, ce qui est assez rare.
Le réchauffement des relations entre Cuba et les États-Unis continue de susciter réactions et commentaires dans la presse.
Avec trois angles d'attaque dans les hebdomadaires, l'apologie sans surprise dans l'Humanité dimanche, l'hebdomadaire communiste raconte comment la grande île a tenu tête à l'impérialisme yankee avec son peuple pour défendre sa révolution et remporter une victoire historique malgré l'instrumentalisation du thème des droits de l'homme par les ennemis du régime castriste. Dans le supplément, Idée du Monde, une intéressante critique rétrospective de la fascination des intellectuels français pour la révolution cubaine dans les années 60. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Agnès Varda, Alain René, Gérard Philippe, Marguerite Duras, Régis Debray, les castristes ont la trentaine et viennent d'abattre une dictature. Il y a l'espoir pour ces intellectuels d'une révolution débarrassée des pesanteurs staliniennes. La plupart des chanteront lorsque Cuba soutiendra l'invasion de la Tchécoslovaquie par les chars soviétiques en 1968. Et puis dans l'Obs, on privilégie le portrait croisé des Castro, le cheval fou révolutionnaire et le petit frère pragmatique. Du pensionnat où ils sont élevés comme les enfants illégitimes d'un grand propriétaire terrien, jusqu'à la transition à la tête du pays en passant par la purge de 1989. Le leader minimo, Raúl Castro, tient sa revanche, nous dit le magazine, après avoir écrasé une larme à la fin de son discours le 17 décembre, faisant la peau à son frère adoré qu'il a servi pendant un demi-siècle. Raúl le timide, Raúl le passe-muraille, a rendu le sourire et l'espoir à un peuple épuisé, écrit l'Obs.
Dans cette période de l'année, il est bien sûr question de bilan, de perspective. L'Obs consacre ainsi une large part de son numéro double des fêtes de fin d'année à ceux qui vont faire 2015.
Oui, des portraits non pas journalistiques, mais écrits par des personnalités ou des anonymes dont l'histoire résonne avec celle de leur cible. Entre guillemets, il y en a des convenus. Le romancier américain Robert Little tacle Vladimir Poutine. Najat Vallaud-Belkacem revisite l'héritage de son prédécesseur Front Populaire à l'éducation nationale, Jean Zay, fusillé en 1940 et qui entrera au Panthéon l'an prochain. Et puis il y en a de plus cocasses. L'ex-ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, se charge de Patrick Modiano pour moquer sa successeur Fleur Pellerin, incapable de citer une œuvre du Nobel de littérature. Le sénateur écologiste Jean-Vincent Placé voit en Thibaut Pinot impossible vainqueur du Tour de France cycliste, ou encore le procureur Éric de Montgolfier qui rejoue les scènes avec Bernard Tapie dans son bureau lors des interrogatoires sur l'affaire de corruption sur le match de foot VAOM.
Et puis, il y a la frite.
Oui, la frite que notre consoeur belge de France Inter, Charline Van Honecker, nous vend comme gonflée d'ambition pour 2015. Il faut savoir que la Belgique pourrait demander le placement de la frite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, car le bâtonnet de pommes de terre est, dit-elle, avec le déficit public, le dernier lien entre francophones et néerlandophones qui ont déjà signé la pétition par centaines de milliers.
Et ce qui va bien avec des frites maison, bien sûr, c'est un bon steak. Et justement, dans Le Monde, on se pose la question du droit moral de l'humain à manger des animaux.
La philosophie à l'épreuve de la viande, c'est le titre. La consommation a quintuplé depuis 1950. L'élevage est grandement responsable de la déforestation, du réchauffement climatique et de la pollution de la planète. On sait et on continue, écrit Le Monde. 60 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards d'animaux marins sont tués chaque année pour notre consommation. Rien qu'en France, 500 000 bovins, ovins et porcins sont tués chaque jour. Un héritage du néolithique renforcé par la tradition judéo-chrétienne selon laquelle la bête a été créée pour le bien de l'homme, centre et maître de la création. Et ça fait un sacré foin au sein des penseurs de notre époque, pris de passion pour l'éthique de la chair. L'ignominie de l'élevage industriel dégrade non seulement l'animal, mais aussi l'humain à travers ses pratiques, juge une philosophe. En cette période de fête, Juliette, je vous laisse avec ce débat pas toujours très digeste.
Je vous souhaite de bonnes fêtes néanmoins. François Mazet, c'était la revue de presse RFI, les 8h passées de 29 minutes.